La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club, cet après-midi, deux nouveaux finalistes pour le concours Ma Thèse en 180 secondes, des initiatives pour sauver la mer et une bande dessinée consacrée à une clinique psychiatrique. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui une publication étonnante, on va le voir, sur le rôle de la pollution dans le retard de croissance des nouveau-nés.
Oui, et l'estimation du coût pour la société française chaque année, 1,2 milliard d'euros et un QI en baisse également à cause des particules fines. On en discute avec l'épidémiologiste Isabella Anessi-Maizano.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club préparé aujourd'hui par Thomas Lehété avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités de ce club en studio avec moi, Hugo Verlhomme et Jeff Pourquier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et en duplex des studios de France Bleu Auvergne, Paolo Cucci et Arnaud Persson. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathieu.
Paolo Cucci, Arnaud Persson, vous êtes donc avec nous et en route pour la finale nationale du concours Ma Thèse en 180 secondes. Ça sera mercredi 13 juin prochain à Toulouse. Vous aurez donc 3 minutes, pas une de plus, pour défendre votre thèse. Quel en est l'intitulé, Paolo Cucci, pour commencer?
Alors c'est un peu long, accrochez-vous.
Oui, on
c'est
s'accroche.
Développement d'une nouvelle méthode de mesure du potentiel d'oxydoréduction dans la viande fraîche afin d'améliorer les produits carnés.
Voilà, et vous en êtes sûr, hein, c'est bien ça l'intitulé, on va le détailler dans un instant avec vous. De votre côté, Arnaud Persson, de quoi allez-vous parler?
Ben moi, ce sera un peu plus court. Je travaille sur des modèles donc probabilistes de dynamique de population que j'applique au cas de forêt.
Voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est prometteur. Et on se retrouve donc dans un instant pour faire connaissance avec vos sujets. Hugo Verlhomme, vous êtes écrivain, spécialiste de la mer et des océans. Et vous publiez Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité chez Albin Michel. Un livre positif, enfin, hein, pour nous montrer qu'il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui.
Absolument, parce qu'on a toujours tendance à parler de l'océan pour en dire tous les maux qui le rongent, qui le ravagent. Et en fait, il y a un autre aspect à cela, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'on a besoin de positiver et d'agir aujourd'hui, d'être tous un peu éco-responsables, éco-citoyens.
Avec des lanceurs d'espoir, hein. C'est une véritable armée pacifique que vous allez nous présenter. Et puis Jeff Pourquier, vous êtes auteur de bande dessinée. Et avec le scénariste Aurélien Ducoudray, vous publiez La Troisième Population chez Futuropolis. Alors c'est un album qui est une plongée dans une clinique psychiatrique à côté de Blois, qui est très particulière puisque c'est un espace ouvert. Et donc vous êtes installé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines dans cet endroit.
Voilà, c'est ça. En fait, même plusieurs mois, mais à raison de 3-4 jours par mois. Voilà. Bah, en fait, auteur de BD, c'est un peu un métier de fou. Je me suis dit qu'il fallait creuser de ce côté-là. Ouais. Non, blague mise à part, c'était une expérience assez géniale.
Ouais, et vous en ramenez un document, finalement, très intéressant à travers cette bande dessinée qu'on va présenter aux auditeurs dans un instant. Voilà donc pour le sommaire de ce club de la tête au carré. Et on se retrouve tous dans un instant. Alors que la France est renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes de qualité de l'air, on s'intéresse à l'impact de la pollution sur les enfants à naître aujourd'hui, à la une de la science.
On connaissait l'impact écologique de la pollution de l'air, on en connaît désormais le coût. Près de 100 milliards d'euros chaque année en France, un chiffre qui compile baisse de la productivité, du rendement, perte de biodiversité et surtout dépenses de santé. La pollution de l'air est responsable de 42 000 décès prématurés chaque année en France et de 650 000 journées d'arrêt de travail.
Voilà, le coût de la pollution de l'air, c'était extrait d'un document d'Itélé en 2015 et un nouveau chiffre s'ajoute cette semaine à ces estimations. Une étude de l'INSERM qui estime à 1,2 milliard d'euros chaque année les frais de santé liés à la pollution sur la grossesse des Françaises. Et pour comprendre ce chiffre et l'impact de la pollution sur la santé des plus jeunes, on accueille donc notre invité Axel.
Oui Mathieu, nous sommes avec celle qui a dirigé ce travail, Isabella Anessi-Maizano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM. Alors, Quels sont les effets connus aujourd'hui de la pollution sur la grossesse qui vous permettent d'avancer ce chiffre, ce surcoût de 1,2 milliard en dépenses de santé?
Il y a plusieurs effets qui ont été démontrés, mais notre travail a pris en compte l'hypotrophie, c'est-à-dire le fait d'avoir des bébés à la naissance qui pèsent moins que 2,5 kg et qui vont avoir des problèmes un peu plus tard dans la vie car ils ont des risques accrus de souffrir certaines pathologies. Mais le travail à cibler, disons vraiment, la naissance et le suivi des enfants hypotrophes en termes de handicap et puis de déficience intellectuelle.
Ça veut dire que vous avez suivi l'impact de cette pollution sur toute leur vie à venir, c'est ça?
Disons, c'est une estimation, hein, c'est très compliqué de suivre ces enfants. Ils sont partout en France. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais le coût, comme vous l'avez annoncé, il est très important. Nous avons estimé qu'il y a environ 8000 enfants qui naissent hypotrophes avec un petit poids en raison de l'exposition de la mère pendant la grossesse. Et parmi ceux-là, il y en a plus ou moins 2000 qui vont avoir une déficience intellectuelle importante qui nécessite un suivi.
Quels sont les polluants qui sont responsables de ces hypotrophies?
Dans notre étude, nous avons étudié les particules fines, c'est-à-dire les particules qui ont un diamètre de 2,5 microns qui pénètrent dans les voies aériennes et qui descendent jusqu'à ensuite au sang et même à des organes. Dans le cas des enfants hypotrophes, le mécanisme est que, en fait, il y a des problèmes placentaires. Hein. Il y a un placenta qui ne communique pas bien entre la mère et l'enfant. Et de ce fait, il y a des enfants qui se développent moins bien que les autres.
Ouais, mais comment on arrive à faire le lien direct entre la pollution de l'air et l'état de santé de ces enfants à la naissance alors? Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Alors bon, ça c'est le résultat d'une étude européenne qui s'appelle ESCAPE, qui avait demandé à tous les pays qui disposaient de cohortes de nouveau-nés, c'est-à-dire d'enquêtes épidémiologiques où on a eu la mère, on a recruté la mère pendant la grossesse et on l'a suivie dans le temps, de fournir des données sur l'accouchement. Disons, c'est des données médicales, en fait, qu'on a eues à partir des hôpitaux et des naissances. Et puis, il y a eu un suivi des enfants. Et cette étude a permis, où il y a des données vraiment individuelles, donc on sait tout, a permis d'attribuer à la mère son exposition pendant la grossesse, en faisant des mesures ou des modèles, et puis de suivre l'enfant dans le temps, et notamment, pour ceux qui nous intéressaient, c'était vraiment le résultat à la naissance. Est-ce que les mamans qui étaient dans des zones polluées avaient des enfants plus légers? Eh bien, c'est ça qu'on a vu. Et l'étude a aussi permis de tenir compte d'autres facteurs de risque du petit poids de l'enfant. On sait très bien que si la mère fume trop ou la mère boit, elle risque d'avoir un enfant qui a un petit poids. Mais l'étude était tellement importante, tellement de mamans, qu'on a pu isoler les mamans qui n'avaient pas ces facteurs de risque pour pouvoir ensuite établir le rôle propre de la pollution.
Isabella Anassima Ezzano, il y a un autre chiffre assez intriguant dans votre travail, c'est cette perte estimée d'un point de QI pour ces enfants. Et là aussi, ça représente une perte financière. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir?
Oui, tout à fait. Il y a, en fait, on a estimé, c'est pas nous, hein, d'autres économistes, combien ça coûte la perte d'un point de QI? 13 000 euros, hein, c'est très chiffré, parce que on sait qu'il y a moins de productivité et d'autres problèmes. Et dans cette étude, en voyant les enfants les plus graves, les plus atteints, on a vu qu'il y avait environ 80 000 points de QI perdus. Et voilà, en faisant la somme. Alors, il faut être vraiment très prudent. Ce sont des moyennes, ce sont des estimations, mais ça donne une idée du problème social et sociétal associé.
Il y a certainement des futurs parents qui écoutent la radio à cette heure-là. Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner? Parce que je pense qu'ils sont en train de s'inquiéter là.
Moi, je conseille aux femmes enceintes d'éviter de marcher à côté d'un camion en diesel, d'éviter autant que possible en préférant des rues parallèles, de chemins parallèles, d'éviter d'être exposées directement, parce que il y a aussi d'autres données très inquiétantes sur les expositions de la mère pendant la grossesse, notamment en termes de système immunitaire de l'enfant. On avait publié ça il y a quelques temps. Et donc, il faut vraiment se protéger. Et la chose la plus simple à faire, c'est ça.
Les masques qu'on voit apparaître de plus en plus dans les grandes villes, est-ce que c'est efficace?
Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données scientifiques qui montrent que ces masques marchent. Ces masques n'ont pas fait leur preuve. Moi, personnellement, j'en ai vu beaucoup. J'ai essayé de les utiliser et je ne suis pas en mesure.
Puis tout dépend des masques, parce qu'on voit simplement un tissu, ça ne sert absolument à rien.
Oui.
Il y a des choses beaucoup plus sophistiquées pour filtrer justement les particules.
Oui, parce qu'en plus, les particules, on dit les fines, mais il y a aussi toutes celles qui sont plus petites. Donc les ultrafines, les nanos, etc.
Bah, on va finir sur l'introduction. Hier, la Commission européenne a renvoyé la France devant la Cour de justice pour non-respect des normes de qualité de l'air. Votre regard de chercheur sur cette actualité ? Ça fait longtemps que ça dure.
Ça fait trop longtemps que ça dure, oui. Et qu'il faut faire quelque chose pour réduire l'exposition des gens, parce qu'il y a des décès, il y a des malades, et voilà. Et on voit aussi qu'il y a une perte un appauvrissement de la société en termes intellectuels. Et je trouve que ça fait beaucoup.
Voilà, nouvelle étude INSERM donc sur ce lien entre la pollution de l'air et la santé des plus jeunes. Isabella Anessi-Maïsano, merci beaucoup d'être venue en parler aujourd'hui.
C'est moi.
Au micro de La Tête au Carré. Merci Axel, à lundi.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le mystère des lézards au sang vert de Nouvelle-Guinée continue d'intriguer des chercheurs de l'université de Louisiane. La couleur de leur sang a été récemment expliquée par la présence d'un pigment toxique appelé biliverdine. La quantité de toxine mesurée dans leur sang est 40 fois supérieure à une dose mortelle pour l'homme. Si pour l'heure la fonction de ce pigment dans le métabolisme du lézard reste incertaine, les scientifiques étudient ses effets potentiels sur la malaria et sur d'autres parasites qui infectent l'animal. L'une des toutes premières galaxies formées dans l'univers a été découverte par une équipe française de l'université Paul Sabatier à Toulouse, et les scientifiques ont estimé sa naissance à 250 millions d'années après le Big Bang, ce qui est très très tôt dans l'histoire de l'univers. Si l'hypothèse est confirmée, les résultats de cette étude publiée hier dans la revue Nature pourraient remettre en question les modèles actuels de formation des premières galaxies. Et puis pour la première fois, des physiciens américains ont réussi à mesurer la pression qui s'exerce au centre des atomes, précisément à l'intérieur d'un proton. Cette pression est de 100 décillions de pascal ou 10 puissance 35, ce qui est équivalent à 10 fois la pression existante au cœur d'une étoile à neutrons. Cette avancée scientifique et technique pourrait nous en apprendre plus sur les interactions fortes qui lient les constituants des protons eux-mêmes, les fameux quarks. Et le club de La Tête au Carré dans un instant. Take you out the goal is father. Come harder. Stop.
start a new method. I'd say revolution, but the word been dead. It let it chaos embedded. They'd rather use terrible. If we organize, they can get it. The siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies and they bought them for us on. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on. Silver surfer, gray matter. Always get it all you suckers scatter. When I come hard like mixing in the back.
Arat Kilo sur France Inter et au menu de notre club cet après-midi, de nouveaux finalistes pour le concours Ma Thèse en 180 secondes, des initiatives pour sauver la mer et une bande dessinée consacrée à une clinique psychiatrique. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme tous les jours. Et c'est parti, direction Toulouse.
C'est parti.
La tête au carré, Ma Thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Voilà, Toulouse, ce sera le lieu justement de la finale nationale de Ma Thèse en 180 secondes. Mais nous sommes en duplex des studios de France Bleu Auvergne où nous attendent Paolo Cucci et Arnaud Persson. Vous êtes les deux nouveaux candidats de ce concours avec cette finale à laquelle vous allez participer pour défendre votre thèse et ce concours organisé donc par la CPU, la Conférence des Présidents d'Université et le CNRS. France Inter est partenaire de ce concours. Et donc on se retrouvera tous ensemble là, le mercredi 13 juin au Théâtre National de Toulouse, puisque j'aurai le plaisir de présenter cette finale avec Sophia Aram. Paolo et Arnaud, vous faites donc partie des 16 finalistes qui ont passé toutes les étapes de la sélection. Est-ce que vous avez vécu justement ces premières sélections avec confiance? Comment ça s'est passé, vos premiers contacts avec le public? Paolo Cucci, peut-être pour commencer.
Alors, je pense un peu comme tous les autres finalistes, un peu stressé de la première, forcément, première fois, première présentation, comment le public va percevoir notre speech. Et puis avec le temps et entre guillemets l'expérience, hein, bien qu'on l'ait fait qu'une fois à Clermont-Ferrand, un peu moins stressé pour les demi-finales et sûrement beaucoup plus stressé pour la finale nationale, puisque là ce sera un autre enjeu.
Ouais, vous sentez la pression qui monte un petit peu, Arnaud Persson aussi ou pas?
Oh, peut-être pas quand même, mais non, on commence à y penser. Oui, le 13 ça approche. Après, bon, notre speech est, je pense, en place. Que dire de plus que le répéter, on le connaît déjà, je pense, sur le bout des doigts.
Donc ouais.
Après, ce sera au jury de trancher, voilà.
Ouais. Et puis finalement, le public, vous avez l'habitude d'y être confronté, parce que vous enseignez tous les deux, vous donnez des cours.
Oui, tout à fait, oui.
Donc c'est déjà une façon d'être face à un public.
Ça aide beaucoup dans les deux sens. De donner des cours, donc de parler devant des élèves, et à l'inverse, de faire la vulgarisation scientifique dans le concours, nous aide aussi à être peut-être, à mon avis, moins précis dès le départ quand on parle avec les étudiants pour éviter de les perdre directement dans énormément d'informations et être donc plus précis, plus concis et éviter de leur abreuver trop d'informations d'un coup, dès le premier cours par exemple.
Alors Paolo Cucci, vous êtes doctorant à l'université de Clermont-Auvergne, vous êtes rattaché à l'Institut Pascal sur l'axe de recherche génie des procédés énergétiques et biosystèmes, et votre sujet de thèse donc s'intéresse à l'oxydation et à l'oxydation de la viande rouge en particulier, c'est bien ça hein?
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Comment vous avez eu l'idée de ce sujet de thèse là au départ?
Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est j'ai la chance d'être financé donc par la région Auvergne. Donc au départ c'est donc mes enseignants, mes directeurs de thèse qui ont proposé ce sujet avec l'ADIV, donc qui est une entreprise clermontoise qui travaille sur tout ce qui est viande, dans tout ce qui est conseil, audit, elle aide soit les entreprises qui fabriquent la viande ou alors les abattoirs. Et ils ont proposé à la région Auvergne donc un sujet. Il a été sélectionné et donc je suis financé par la région Auvergne, donc le FEDER et par la DIV. Et ils ont choisi donc ce sujet par dans le fait que la DIV donc travaille sur la viande et se sont rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillage alimentaire lié au virement de couleur de la viande rouge.
Et on va écouter justement un extrait de votre prestation, puisqu'elle a déjà été présentée au public pour les finales régionales, autour donc de l'oxydation de la viande rouge.
Chaque année en France, environ 33 000 bovins sont élevés, nourris, mais aussi abattus. Et tout ça, pour rien. Cela représente 150 000 steaks hachés jetés par jour. Et tout ça, à cause d'un problème de couleur. En effet, comme pour les fruits et légumes moches, ou encore les enfants adoptés aux États-Unis, s'ils ne conviennent pas, on les achète pas. Le problème, c'est que cette viande rouge peut virer au vert. Deux options étaient possibles. La première, donner toute cette viande verte à des daltoniens, en leur disant qu'elle était rouge. La deuxième, prédire l'avenir de la viande. C'est en quoi consiste mon travail. Finalement, si mon travail porte ses fruits, il n'y aura plus que de la viande rouge dans nos rayons de supermarché. Et ça, mesdames, messieurs, ça, j'achète.
Voilà, Paolo Cucci. Humour grinçant, dites donc, hein, quand même, pour votre prestation.
Un
là.
Petit peu, hein, un vous petit y allez, peu, je vous l'accorde.
Vous y allez fort.
On m'a dit qu'il fallait être percutant dès le début et authentique, et c'est un peu le type d'humour que j'aime et que je fais de temps en temps. Donc, voilà.
La piste de l'humour, ça a été pour vous justement un axe pour essayer de partager au mieux votre travail de thèse?
C'est ça. Les conseils qu'on nous a donnés, l'un des premiers conseils, et je pense un des plus forts, c'était de rester authentique et de capter l'attention et de provoquer une émotion. Ouais. Et moi, j'ai choisi l'humour parce que c'est l'émotion, on va dire, alors je me considère pas comme humoriste, attention, mais c'est l'émotion dans laquelle je me suis senti le plus à l'aise et le plus authentique.
Ouais. Alors vos travaux, donc, c'est une façon de lutter contre le gaspillage, justement, de la viande, là, en l'occurrence?
C'est ça, c'est de limiter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que le critère numéro un d'achat, c'est la couleur de la viande. Donc quand on arrive au supermarché, hein, tous consommateurs, on l'a tous fait, si la viande n'a pas une belle couleur, un bel aspect, on l'achète pas. Le problème, c'est que le consommateur d'après fait la même conclusion et donc il reste énormément de viande qui n'est pas consommée, qui n'est même pas achetée de par ce problème de couleur. Donc le but, c'est de, pour faire simple, c'est d'amener dans le supermarché uniquement de la viande qui restera rouge longtemps.
Mais alors, comment vous arrivez à le savoir, justement? Parce que quand vous êtes face à une vache, par exemple, est-ce que vous savez comment sa viande va s'oxyder rien qu'en la regardant?
Non, alors pas en la regardant, ce serait quand même pas mal, mais non, on n'en est pas encore là. En fait, là, c'est donc de développer une nouvelle méthode de mesure, c'est-à-dire d'arriver à mesurer donc cette fameuse oxydation, ce qu'on pourrait appeler un virement de couleur, à même la carcasse. C'est-à-dire qu'on ferait une mesure sur la carcasse et on pourrait l'orienter sur soit des filières courtes, soit des filières longues. Donc la filière courte serait, si la viande, on voit qu'elle va changer de couleur rapidement, ça sert à rien de l'emmener au supermarché, elle sera, entre guillemets, pas achetée, donc on l'orienterait, excusez-moi, plus sur des plats préparés où la viande serait cuite, et donc le problème de couleur n'y est plus. Oui. Et si on voit que la viande, ou plutôt la carcasse sur la viande, virera dans un temps plus long, on pourra donc envoyer cette carcasse sur, par exemple, des barquettes en supermarché.
Mais ça, c'est un rêve pour l'instant. C'est-à-dire que techniquement, on n'arrive pas à le faire ou on a déjà des pistes?
Alors techniquement, il y a quelques travaux, mais on n'arrive pas encore à le faire puisque justement, on a certains problèmes. Les sondes qui sont utilisées pour mesurer l'oxydation, notamment, sont des sondes pour liquide. Oui. Et là, forcément, je travaille sur la viande qui est un milieu solide, donc il faut que j'adapte cette sonde pour mon projet.
Oui. Essayez de faire la même chose sur le poisson, ça intéressera plus Hugo Verlhomme, hein, qui est un homme de la mer.
Bah oui, puis c'est vrai que moi, je me dis, quand j'entends ce que vous dites, que si la viande vire de couleur, ça a peut-être un sens et que dans le passé, on n'avait pas forcément les moyens de voir le développement des bactéries et que peut-être c'est lié aux bactéries ou autre chose, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des doutes quand on voit la viande virer de couleur.
Oui, surtout verdâtre, hein, c'est pas terrible en général. C'est sûr. Paolo Cucci, pour répondre à Hugo Verlhomme.
Alors justement, pour répondre à ce côté microbiologique, on est en train de faire des études dessus. Alors je m'avancerai pas parce que j'ai pas de grandes conclusions et je voudrais pas dire de bêtises à l'antenne, mais ce ne serait pas forcément lié à la microbiologie. Alors attention, je n'ai pas dit que si elle était verte, il fallait la consommer. J'ai dit que ce ne serait pas lié à la microbiologie et donc ce ne serait potentiellement pas dangereux. Après, on n'a pas fait des études chimiques sur les composés créés et tout ça. Mais ce n'est pas forcément lié à la microbiologie, mais ce serait peut-être juste un phénomène physico-chimique.
Arnaud Persson, vous êtes doctorant à l'Université de Clermont, rattaché au laboratoire mathématique Blaise Pascal, et votre thèse s'intéresse aux modèles mathématiques qui servent justement à modéliser l'évolution des forêts dans le temps. En voyant votre sujet, on se dit, bah, dites donc, le degré de difficulté pour le vulgariser au public, c'est quand même quelque chose, non ?
Ben, c'est des mathématiques, donc effectivement, et le public n'est pas forcément habitué à entendre parler de mathématiques, mais bon, on essaye de l'intéresser du mieux qu'on peut.
Eh bien, on va vous écouter justement pour voir comment vous vous êtes débrouillé sur scène face au public.
Est-ce que vous êtes déjà promené en forêt, messieurs, dames ? Imaginez maintenant dans cette forêt un mathématicien. Alors que vous serez en train de chercher les champignons, ou votre chemin, le mathématicien se pose des questions d'une autre nature. Par exemple, à quel point est-ce que la diversité que j'observe est due au hasard ? Suis-je capable de construire un modèle probabiliste qui prédirait l'évolution de la diversité de la forêt dans le temps ? Comment modélise-t-on la forêt ? Eh bien, je vous propose qu'on fasse un exemple ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons considérer une forêt composée de deux espèces, des hêtres et des bouleaux. Messieurs, dames, vous allez être cette forêt. À partir de maintenant, chacun d'entre vous est un arbre. Vous avez donc deux choix, être ou pas être. Telle est la question. Je vous laisse choisir. Et je demanderai à ceux qui ont choisi d'être être de lever la main et de la garder levée, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà.
Voilà, Arnaud Lapersson. Prestation interactive, là aussi. Hein. Faut trouver des idées.
Oui, ben, essayer de rendre les maths vivants, c'était un peu le but, voilà. Donc, là, on est sur un modèle donc, dynamique de population. Le public est une population. Donc, autant leur faire vivre l'équation, leur faire vivre le modèle. Voilà, c'était l'idée. L'idée un petit peu principale du speech.
Ouais, là, vous avez simplifié, hein, vous avez pris deux espèces d'arbres, mais en réalité, vous en étudiez beaucoup plus dans le cadre de votre thèse, hein, je crois.
Voilà, c'est-à-dire que ben, pour parler mathématiques, on étudie un nombre n, voilà.
C'est-à-dire
un nombre quelconque, en fait.
Ouais, donc vous en avez beaucoup plus.
Qui est comme un paramètre de départ.
Ouais. Alors, ça va mener à quoi, à terme, justement, ce travail, pour qu'on comprenne bien ce que vous faites avec vos mathématiques dans les forêts, là ?
Alors, à terme, c'est un petit peu difficile de vous répondre, parce que... Enfin, je sais pas, pour vous prendre une comparaison, c'est un petit peu comme si vous demanderiez à un maçon qui construit une cathédrale quels seront les gens qui iront dedans. Je sais pas exactement à quoi ça peut servir, mais on peut imaginer que ça servira essentiellement à modéliser des forêts, modéliser la biodiversité et l'évolution de la biodiversité sous des contraintes environnementales, comme par exemple le réchauffement climatique, ou des maladies, ou une espèce invasive aussi. C'est effectivement des choses qui peuvent... des paramètres qui peuvent être pris en compte.
Arnaud Persson, c'est vrai que vous faites des chroniques pour une radio locale de Clermont-Ferrand ?
Oui, ça m'est arrivé, en effet.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme type de chronique, alors ?
C'est des chroniques plus ou moins mathématiques, ou... plus ou moins humoristique, voilà, sur une radio locale qui est Docte Auvergne, voilà, avec une association de doctorants.
Bon, bah, c'est déjà un bon exercice là aussi pour vulgariser votre travail et être au point donc le 13 juin prochain sur la scène Théâtre National de Toulouse. On va accueillir d'autres camarades dans les semaines qui viennent pour nous emmener justement jusqu'au concours. Et puis toutes les infos sur justement MT180 sont sur le site mt180.fr. Et puis vos vidéos, on peut les voir aussi, hein, si on cherche bien sur Internet. On peut les trouver facilement. Bravo à vous en tout cas, puisque vous avez déjà bien avancé dans la compétition. Et puis dans un instant, on va retrouver Hugo Verlhomme. Ce sera notre second invité, deuxième invité, pour parler de ce livre « Demain l'océan ». Et c'était Petit Fantôme.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé: l'océan, c'est quoi l'océan? Et je ne savais pas comment répondre. C'est quoi la mer? Comment raconter?
Extrait du film Océan, sorti en 2009, et la voix de Jacques Perrin pour accueillir notre invité Hugo Verlhomme, écrivain et spécialiste de la mer et des océans, justement. Hugo Verlhomme, vous publiez Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité chez Albin Michel. L'océan, c'est votre lieu de vie, c'est l'endroit également pour vos loisirs, mais aussi pour la réflexion. Les océans, on en parle souvent pour montrer ce qui les menace hein, dans cette émission. Et pour une fois, on prend le contre-pied, et grâce à vous, dans cet ouvrage, c'était vraiment l'idée de départ pour vous essayer de montrer, au contraire, les aspects positifs et vertueux et des actions qui sont déjà menées?
En fait, je suis comme ça moi-même, c'est-à-dire que j'ai mis deux citations qui résument la philosophie du livre en début du livre. L'une qui est de Voltaire, qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Mmh. » C'est quelque chose à méditer. L'autre citation, elle vient de Catherine Chabot, qui œuvre beaucoup pour les océans et pour la navigation. Et elle dit « S'attaquer aux solutions plutôt qu'aux problèmes. » Et en fait, moi, dans la vie, je suis comme mon livre. Donc, c'est pas que je me suis dit « Tiens, on pourrait faire un livre positif. » C'est l'impact du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Pas le film lui-même qui est un peu austère par certains côtés, mais l'impact qu'il a eu qui montre qu'avec très peu de choses, on peut cultiver pour le monde entier de façon propre avec la permaculture. Et j'ai voulu faire la même chose pour l'océan. Et la grosse surprise que j'ai eue, c'est qu'en cherche, je compile des informations depuis des années pour ce livre, j'y pense depuis des années. Mais la surprise, c'est que plus je creusais, plus je trouvais de choses sidérantes dont personne n'a entendu parler.
Ouais, c'est-à-dire que partout dans le monde, finalement, des hommes et des femmes se mobilisent avec des outils technologiques en plus très modernes.
Absolument.
Pour améliorer l'état des océans.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a un engouement tel pour l'océan depuis une quinzaine d'années qu'on a des résultats qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui plongent en apnée à 40 mètres, plein de gens qui font des tours du monde à la voile tout seul, qui surfent des vagues de 20-30 mètres, etc. Donc on s'océanise petit à petit, l'humain devient vraiment propre à s'océaniser. Quand j'étais gamin sur les plages d'Osgore, il y avait personne sur les plages, il y avait personne dans l'eau. Donc ça fait seulement 50-60 ans. On a fait des bonds de géants. Et donc non seulement on s'océanise, on devient plus dauphin, mais en plus, on a des outils absolument fantastiques que les gens ignorent, c'est les sciences participatives notamment, et tout ce qui passe par les applications et Internet, qui nous transforment tous, nous, amateurs de surf, de baignade, riverains, promeneurs, amoureux de l'océan. On peut devenir des antennes pour la science, on peut devenir des protecteurs grâce à ces nouvelles techniques.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on sera plus efficace aussi, finalement, en montrant ce type d'initiative et en donnant ce type de message aussi?
Bien entendu, parce que quand on dit aux gens, voilà, les requins sont foutus, les dauphins sont foutus, les baleines, etc., les coraux blanchissent, etc.
Ce qui n'est pas faux, hein?
Mais bien sûr que non, malheureusement, j'aimerais bien que ça soit faux. Mmh. Les gens vous disent, ah là là, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on peut tous faire des choses à plein de niveaux, c'est ce que j'essaye dans ce bouquin de donner un nombre de pistes énormes.
Ouais. Alors, il y a plein de clés, hein, justement, pour ceux qui souhaitent s'y mettre et s'inspirer, justement, parce que effectivement, on est tous potentiellement capables aussi d'aider la science pour améliorer les choses. Donc ça, c'est très concernant aussi. Et puis, ce que vous dites d'abord, c'est que l'océan a une capacité de résilience absolument incroyable.
Hein, oui, alors, c'est extraordinaire, et en même temps, j'ai toujours peur de le dire, parce qu'il y en a qui vont se dire, ça va.
C'est pas la peine de se casser la tête. Voilà, hein.
Mais à partir du moment où on crée des sanctuaires, des vrais sanctuaires marins, pas des endroits où juste, mais des endroits no take, no go, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut ni prendre, ni aller. Eh bien, en quelques années, ceux qui vivent sur place mesurent une explosion de la biodiversité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée cette résilience dans un sanctuaire, ça déborde partout. Les poissons ne restent pas dans un sanctuaire. Donc c'est bon pour les pêcheurs. Les pêcheurs eux-mêmes commencent à comprendre que quand il y a des zones protégées, ils pêchent plus de poissons à l'extérieur des zones.
Ouais. Est-ce que vous les rencontrez d'ailleurs, les pêcheurs, pour discuter avec eux un petit peu et montrer l'impact aussi de la pêche industrielle, par exemple?
Alors il y a quand même deux catégories de pêcheurs. Il y a les pêcheurs artisanaux. Là où j'habite, ce sont des pêcheurs artisanaux.
Donc à Osgore, en l'occurrence.
Osgore, Cabreton. Surtout le port de Cabreton, donc je parle régulièrement avec les pêcheurs, bien sûr, je les vois travailler, je vais souvent sur les étals, etc. Mais cette pêche-là n'est pas la pêche qui pose un vrai problème. Celle qui pose un problème, c'est la pêche industrielle et même la pêche de chalut. Donc les gens me disent, oui, mais alors on n'achète plus de poissons. Je dis, c'est simple, on regarde l'engin de pêche qui a permis d'attraper le poisson dans un premier temps. Si vous ne faites qu'une chose, faites cela, évitez tous les poissons pris au chalut. Alors vous allez me dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que quand on prend une espèce de poisson au chalut. On en tue des tas d'autres qu'on rejette à la mer et qui ont été tués pour rien. Donc il faut maintenant des pêches de plus en plus ciblées. Mmh. Et la technologie, même on a des Shazam des poissons qui permettent sur des sondeurs, on peut voir les espèces de poissons et même à la chaîne comme ça, grâce à la vessie natatoire des poissons, parce qu'il n'y a pas deux poissons au monde, deux espèces de poissons qui ont la même vessie natatoire, on peut dire sous l'eau, tiens, ça c'est du merlu, ça c'est du thon, ça c'est etc. etc.
Donc ça veut dire qu'en tant que consommateur, on a aussi le pouvoir de faire des choses très intéressantes.
Absolument. Hein, quand même. Alors chez le poissonnier, c'est toujours un peu plus compliqué parce que si on dit voilà, il vaut mieux manger tel poisson plutôt que tel autre, on met immédiatement la pression sur ce poisson. Et donc il faut savoir ce qui se pêche à tel moment, comment ça a été pêché, et puis varier les espèces qu'on mange, et puis ne pas manger du poisson tous les jours. De toute façon, c'est pas une bonne idée, ne serait-ce qu'au niveau des métaux lourds.
Jeff Pourquier, est-ce que vous, en tant que dessinateur, vous aimeriez passer plusieurs semaines sur un bateau pour essayer de nous en faire une bande dessinée sur la vie du pêcheur?
Pourquoi pas, d'autres l'ont déjà fait avant moi, mais oui, effectivement, pourquoi pas, ça serait une... Alors, moi, ça a été évoqué à un moment, mais pour un autre problème, qui était les migrants méditerranéens, en fait. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais... Voilà, c'est aussi un autre aspect de la mer.
Et du travail possible pour un dessinateur, c'est
voilà.
De relater effectivement les événements de l'océan. Océan d'ailleurs assez méconnu, finalement, Hugo Verlhomme.
Bah, c'est ça qui est...
C'est incroyable, parce qu'on envoie des sondes très très loin dans l'espace, mais alors l'océan, il est...
Bah, il y a des chiffres qui sont extrêmement simples, c'est qu'on connaît beaucoup moins de 10% des espèces vivantes dans l'océan, moins de 10%. Alors il y a des espèces qui sont millimétriques, minuscules, mais qui peut-être contiennent des molécules qui peuvent avoir un impact énorme pour nous. C'était quoi la question déjà?
C'est la méconnaissance.
Oui, la méconnaissance, océans, c'est ça. Et en plus, les océans, on en connaît, on connaît pas du tout la morphologie des océans. On connaît moins de 5% de la topographie marine. Donc c'est un monde totalement étranger. Et c'est vrai qu'on envoie des tas de fusées chercher de l'eau. Or, on en a, chercher de la vie. Or, on a de la vie extraterrestre dans les océans.
Alors, en tant que surfeur, parce que vous êtes surfeur aussi.
Body surfeur.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement alors pour la science?
En fait, c'est ça qui est formidable, c'est que tout le monde aujourd'hui peut faire quelque chose. Alors, c'est vrai que souvent, les surfeurs, ce qui les intéresse, c'est le surf. Mais par exemple, ils peuvent se mettre une dérive sur leur planche qui est connectée. Cette dérive, dans l'eau, pendant qu'ils vont surfer tranquillement, elle va prendre des mesures. La température, l'acidité, la salinité, d'autres choses. Ensuite, avec une appli, paf, ils envoient ces informations à des océanographes. Et ça se multiplie sur les bateaux à voile. On peut mettre aussi des petites bases océanographiques qui vont mesurer et envoyer régulièrement des informations. Et cette espèce de communication, grâce à ces outils, se multiplie partout, y compris sur les drones marins, qui sont le futur Eldorado des gens qui investissent comme Google, Facebook, Rolls-Royce, Leonardo DiCaprio travaille là-dessus aussi.
Ouais. Alors Rolls-Royce, tiens, justement, ils investissent dans les cargos. Hein.
Absolument.
Ils font des gros bateaux énormes et ils travaillent sur les cargos du futur parce que vous avez publié, vous, dans le passé, le guide des voyages en cargo. Or, c'est un moyen de transport ultra polluant. Hein.
Absolument. Ouais. Alors, il est polluant non pas en soi, mais il est polluant parce qu'on l'autorise à utiliser un carburant qui devrait être interdit, qui est du fioul soufré, du fioul lourd et sale. Ouais. Par contre, quand on voyage à bord d'un cargo polluant, le fait qu'on soit à bord en tant que passager, ça diminue un peu l'empreinte carbone. Déjà, on prend pas l'avion, parce que l'avion est beaucoup plus polluant que le cargo. N'oubliez pas que 8%, ça vient de sortir le chiffre, 8% de la pollution mondiale est due au tourisme. Mmh. Ce qu'on appelle le tourisme, c'est le kérosène en grande partie. Donc finalement... On va faire du gaz naturel liquéfié comme le va le faire la CMA-CGM, donc on va diminuer la pollution. Dès 2020 ou 2022, les fioul soufrés ne sont plus autorisés. Oui. Et puis, on étudie de plus en plus des systèmes mixtes hydrogène, solaire, éolien.
Et voiles,
bien entendu, qui font que les cargos du futur seront propres.
Ouais, et ça, il est temps, parce qu'évidemment, le trafic international, il est très très important, hein, et les émissions de CO2, pas seulement, sont extrêmement fortes.
Absolument, et on prépare les cargos drones avec personne à bord, qui vont très très bien fonctionner.
Ouais. Hugo Verlhomme, il y a un autre exemple qui m'a intéressé, c'est celui des éoliennes sous-marines, hein, parce qu'à priori, on se dit, mon Dieu, mais mettre des éoliennes sous l'eau, ça doit être une catastrophe pour les espèces.
Hein. Non, il y a deux choses, il y a les éoliennes offshore, et les hydroliennes.
Oui, les hydroliennes, pardon.
Alors, les hydroliennes, ça fonctionne très bien. C'est catastrophique pour personne. Mmh. Et les éoliennes offshore, alors là, il y a une étude qui est sortie récemment qui est absolument incroyable, parce qu'ils ont fait un champ d'éoliennes sur Dogger Bank en mer du Nord. Ouais. Et on s'aperçoit que ces éoliennes fournissent 30% de plus d'énergie que les éoliennes à terre. Mmh. elle ne dérange personne. Alors les gens disent, oulala, mais pour la biodiversité, etc. Mais ok, oui. On a attendu des années, maintenant on est allé observer ce qui se passe, et là, surprise, parce qu'il faut savoir qu'un champ d'éolienne, une ferme d'éolienne, on n'a pas le droit d'y circuler, ni d'y pêcher, donc c'est déjà un petit sanctuaire. Ensuite, les embases de ces éoliennes ont fait pousser des quantités astronomiques de moules, qui elles-mêmes ont attiré des crustacés, des petits poissons qu'on a attiré des gros.
Ouais.
Donc ça crée une espèce d'écosystème fantastique, et on voit maintenant pulluler dans cet endroit des phoques. Et les gens qui viennent s'occuper des éoliennes récoltent des moules, des bivalves, des coquillages, des algues, etc. Donc ce sont devenus des espèces de fermes. Et ça, ça va contre l'idée que oui, les éoliennes, ça va complètement troubler la vie. On fait de l'électricité, il y a quelques dégâts. Les centrales nucléaires sont bien pires que tout ça.
Mais les animaux, les espèces ne sont pas piégées par les hydroliennes, par exemple.
Non.
Ouais.
Pas du tout, ça va assez lentement, il y a des grilles, tout ça, enfin les hydroliennes ne sont absolument pas dangereuses du tout pour la...
La production d'énergie avec l'océan, ça c'est vraiment une ressource à exploiter, elle est là...
Écoutez, ils ont fait le calcul théorique que si on crée une ferme d'éoliennes offshore de la taille de l'Inde, eh bien on pourrait donner de l'électricité à toute la planète. Donc c'est les éoliennes offshore, c'est vraiment une forme d'avenir. Figurez-vous qu'on nous installe un câble entre l'Espagne et la France en ce moment qui va passer sous le canyon de Cambreton, c'est pour ça que je suis au courant. Et ce câble est censé faire un échange d'électricité en européen, etc. En réalité, on va aller chercher les fermes à vagues d'Espagne. Le Portugal et l'Espagne ont tout à fait assez d'énergie alternative. Et nous, nous qui avons tant de centrales nucléaires, on va être obligés de racheter cette énergie propre. C'est un peu, il vaudrait mieux investir dans les énergies marines renouvelables.
Et beaucoup de transports aujourd'hui sur la mer sont propres. Hein, le transport à voile qui vit une véritable renaissance. Et puis des initiatives assez amusantes. Hein, vous parlez des jumeaux Berck qui ont réussi à traverser l'Atlantique sur une coque de noix. Hein,
absolument.
C'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire.
Ils ont réussi, ils ont fait plusieurs fois sur des bateaux de 5-6 mètres, c'est des jumeaux, ils sont complètement en fusion, et ils ont réussi à traverser sans boussole, sans téléphone, sans GPS, sans compas, sans sextant, sans carte, sans rien, mais en étudiant extrêmement bien les étoiles, les vents, les houles, comme le faisaient les anciens Polynésiens, et ils sont arrivés à l'endroit où ils voulaient arriver, et personne n'en a parlé, c'est un petit exploit qui est passé inaperçu.
Voilà, des milliers d'exemples et d'initiatives, elles sont dans cet ouvrage pour sauver la mer et l'humanité, ça sort chez Albin Michel, ça s'appelle « Demain, l'océan », livre que vous signez Hugo Verlhomme. Dans un instant, nous partons dans une clinique psychiatrique tout à fait particulière, elle est ouverte au monde, et elle fait l'objet d'une bande dessinée, on en parle dans quelques minutes.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'est quand le bonheur, et c'était Cali.
Le club sur France Inter.
Jeff Pourquier, vous êtes notre dernier invité, auteur de bande dessinée, et en l'occurrence, vous venez nous voir aujourd'hui pour la troisième population qui sort chez Futuropolis, et c'est un projet original, un album sur une clinique psychiatrique, la Chênaie, près de Blois. Alors quand on voit ça, on se dit, mon Dieu, c'est pas très sexy, et pourtant c'est ultra intéressant. Vous avez fait un travail remarquable, justement, avec Aurélien Ducoudray, hein, qui est le scénariste, voilà, ouais. Et c'est vraiment une aventure humaine aussi pour vous, hein, au départ. Racontez-nous ce qui s'est passé, parce que vous avez vraiment vécu cette immersion dans cette clinique du Chênaie près de Blois, tout à fait particulière.
Oui, oui. Bah, au départ, c'était en fait un projet qui a été initié par le festival de Blois qui s'appelle BD Boom et Bruno Genini, son président. Et depuis quelques années, ils font des sujets un peu sociaux comme ça. Ils sortent des albums jusqu'à présent collectifs. Et là, cette année, c'était l'idée de nous faire travailler en tandem. Autour de la psychiatrie, puisqu'en fait il y a une longue tradition de la psychiatrie dans la région de Blois. Ouais.
Alors quel est ce lieu, la Chênaie, qui est très particulier?
Voilà, oui, c'est tout à fait particulier parce que en fait il y a une psychiatrie qui est développée là-bas qui s'appelle la psychiatrie institutionnelle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un peu l'idée d'institution est presque un peu inversée, c'est-à-dire qu'au contraire c'est l'idée d'avoir quelque chose d'ouvert, qui est basé beaucoup sur la rencontre, enfin en fait qui met la dimension humaine au cœur de son projet, quoi.
Ouais.
Bah donc on a débarqué là-dedans avec Aurélien. Avec l'idée, d'observer, en fait, peut-être une relative appréhension, un intérêt aussi très fort, parce que le sujet de la folie, c'est quand même aussi un sujet, enfin, pour moi, je le voyais aussi d'une manière artistique, à travers l'art brut, à travers les figures de la folie dans le romantisme, etc. Donc, j'avais aussi curiosité culturelle, quoi,
bien sûr.
Mais peut-être, enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre en fait, finalement a été intégré tout de suite dans ce flux parce que c'est un milieu ouvert, c'est-à-dire que ça accueille aussi tout à fait les gens.
Ouais.
Les gens,
c'est qu'il n'y a pas de blouse blanche, hein,
il y a pas
à
de
la
blouse
Chênaie,
blanche.
Hein.
Alors ça, c'est quelque chose de très troublant.
Et c'est essentiel, hein.
C'est essentiel,
ça fait
essentiel.
Toute la différence.
Oui,
hein.
Oui, parce qu'en fait, quand on arrive là-bas, donc, on ne sait pas qui est qui. Donc la différence entre soignant, soigné, n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que on parle avec des gens voilà, qui nous racontent des choses. Parfois, on peut être un peu surpris. Mais du coup, l'effet de ça, c'est qu'on se pose soi-même la question de à quoi on ressemble là-dedans.
Ouais.
Et quel degré de folie on donne à voir, finalement. Ouais.
Et donc, c'est un modèle thérapeutique tout à fait original, un espace ouvert où, justement, les malades, comme le personnel médical, évoluent ensemble et partagent même les activités quotidiennes. On va écouter un reportage qui a été réalisé donc, dans cette clinique de Chênaie en 2003, et c'était diffusé sur TF1.
Oui, alors, c'est toujours occupé.
Natira tient le standard de la clinique, Sébastien Lebar. Des tâches confiées aux 100 pensionnaires pour les raccrocher à la vie. La plupart sont schizophrènes, sujets à des délires graves.
On a le temps de se reposer, on n'est pas tout le temps dans l'actif, pas tout le temps à la merci de pensées suicidaires ou autre chose.
Un lieu à part, 70 moniteurs, 6 psychiatres, pas de blouse blanche, pas de mur non plus pour enfermer les malades.
Les murs de l'asile ont été un peu aplatis, quoi, hein. Ici, avant, il y avait des grands murs pour cacher les malades, les fous, soi-disant fous. Pour moi, c'est capital, ça change toutes les relations avec l'espace, avec le temps, avec les gens.
La clinique répond à la souffrance, à l'impuissance des proches. En France, faute de place, près de la moitié des malades psychiatriques vivent au sein de leur famille.
Voilà, donc c'est dans ce lieu, Jeff Pourquier, que vous avez pu rester assez longtemps, hein, plus d'une année, sur des périodes assez longues, pour faire cette bande dessinée.
Voilà, oui, c'est ça. Alors, c'était pas en continu, mais au départ, on se voyait un petit peu observateur avec Aurélien, et puis en fait, il est très rapidement apparu qu'il fallait aussi participer à la vie, en fait. Bon, c'est-à-dire que ça s'est fait très naturellement, en réalité.
Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Voilà, alors, du coup, par exemple, on s'est mis à tenir le bar, ou bien on a fait la cuisine. Alors, personnellement, ouais. j'ai préparé.
Ah, c'est sympa, il y a un bar dans la clinique.
Ah, oui, il y a un petit bar.
Pas mal.
Ah, mais il y a même une salle de concert.
Ouais. Et vous avez fait un atelier aussi?
Voilà, et puis on a fini par faire un atelier sur ce qu'on maîtrisait mieux que l'épluchage des carottes, c'était la bande dessinée. Enfin, mieux, je sais pas, mais en tout cas, c'était plus notre spécialité. Disons que c'est venu un peu comme ça et, un peu à notre étonnement, ça a été quand même, ça a déclenché un enthousiasme, enfin, disons, une sorte d'événement dans la clinique, dans le sens où tout le monde s'est mis un peu à vivre à l'heure de la BD. Alors, ouais. Je dis tout le monde, c'est pas complètement vrai parce que
tout le monde ne sait pas dessiner en plus, j'imagine.
Voilà, d'une part, puis tout le monde ne s'intéressait pas forcément, enfin, il y a toute forme de réponse par rapport à ça, mais voilà, dans la salle de concert qui servait aussi de salle de réunion, il y avait des reproductions de bandes dessinées affichées un petit peu partout. Enfin, voilà, c'était un peu une année bande dessinée, un peu au-delà même de notre projet. Même.
Ouais. Mais ils ont vu
Hugo Verlhomme.
Ils ont vu le livre réalisé.
Voilà, donc le livre vient de sortir, et ils viennent de le voir en fait, puisqu'on y est allé la semaine dernière. Ouf. Disons, ça leur a plu, quoi, en fait.
Non, c'est
Crois que ça. Oui, alors, il y avait cette question, en fait, de dessiner les gens, parce que, il y avait tout ce qui était lié au secret médical, et ça nous a beaucoup posé problème pendant la réalisation. Parce qu'à la fois, il y avait des gens, des individus, qui étaient vraiment, intéressants à dessiner, à montrer. Et en même temps, c'était pas trop possible de les montrer tel quel. Donc, en fait, on a fait un petit jeu d'échange comme ça, de personnages, de noms.
Et vous avez été les témoins aussi de scènes difficiles, parce que la vie quotidienne dans cet espace n'est pas un long fleuve tranquille, quand même.
Non.
Hein.
Non, c'est vrai qu'on peut pas dire ça. En fait, à un moment donné du projet, on s'est dit, mais là, ce qu'on est en train de voir, ça ressemble un peu à un club de vacances. Il y avait ce côté-là, un petit peu, d'avoir des activités culturelles, etc. Et en même temps, il y avait aussi une ambiance plus sourde comme ça, qui était un peu en filigrane de une certaine tristesse en fait qui est liée à la maladie, qui est en fait profondément triste au fond.
Oui.
Voilà, donc il y avait un peu ce mélange.
Et des moments de craquage aussi, quand même. Hein.
Voilà. Alors il y a quelque chose qu'on nous a raconté, parce que alors nous-mêmes, on n'a pas été confrontés à des choses de craquage violentes, mais on nous a raconté effectivement, notamment un épisode où un pensionnaire qui avait été un peu admis récemment, en fait, et c'était un peu une erreur d'aiguillage, en fait, parce que les gens arrivent là souvent au terme d'un parcours psychiatrique assez complexe.
Et il s'en est pris un membre du personnel?
Voilà, il s'en est pris un membre du personnel lors de la distribution des médicaments, puis il est sorti, il s'est mis à taper sur les voitures.
Ouais.
Voilà, donc c'était un incident qui a beaucoup traumatisé tout le monde, en fait, soignants, soignés. Et nous, on est arrivés après ça. ce type d'événement était quand même très traumatisant.
Donc vous avez été prévenu quand même que ça pouvait arriver aussi.
Oui, on a vu ça. On avait aussi dans les réunions, en fait, qui s'appelaient les réunions de chambre, des comptes rendus de la nuit. Bon, on entendait un peu des comptes rendus de comportements qui pouvaient être un peu violents, ou en tout cas agressifs.
Hugo Verlhomme, il paraît que vous avez passé votre enfance en hôpital psychiatrique.
Pas
en tant que patient.
Non, je suis fils de psychiatre, effectivement.
C'est ça.
Et pendant plusieurs années de ma vie, en Suisse, j'ai grandi dans un grand établissement qui s'appelait les Rives de Prangin, où c'était très ouvert déjà. Il y avait un atelier de poterie et d'ébo que je pratiquais avec je me souviens d'un schizophrène avec qui j'échangeais. Ouais. Et en fait, c'est formidable aussi pour nous, qui sommes de l'autre côté, le contact avec ces gens-là, en fait, moi, m'a beaucoup enrichi. Et je pense que pour eux, c'est une forme de liberté de se sentir intégré. C'est ce qu'il y a de mieux dans la mesure du possible, évidemment.
Oui, exactement. Moi, je pense que ça, en fait, c'est simplement les considérer comme êtres humains, quoi. C'est dit basiquement comme ça, mais c'était pas forcément
craindre.
Le cas jusqu'à la période un peu où ça s'est monté, c'est-à-dire après-guerre. Ne pas les craindre, donc voilà. En fait, avoir un échange. Le fait de parler, après disons que les comportements en fait peuvent être assez différents, et il y a des gens avec qui on va parler, comme je disais au début, en fait on sait pas à qui on s'adresse.
Jeff Pourquier, pour terminer, un mot quand même sur le style, sur votre patte de dessinateur, parce que au fil des planches on va dans différents univers aussi, de la couleur au noir et blanc, avec aussi un stylisme qui n'est pas le même à chaque page.
Ouais.
Ça, c'était en fonction de quoi justement?
Disons que ça a été quelque chose qui a été réfléchi tout au long. Avec Aurélien, on a beaucoup discuté. Alors Aurélien, finalement, au moment donné où il a écrit, il a donné un angle qui était assez amusé, disons, mm-hmm. enfin, avec un regard un peu qui avait aussi de l'humour, de l'optimisme.
Ouais.
Donc j'ai essayé de trouver une écriture qui correspondait à ça, c'est-à-dire un petit peu croquis, proche de l'écriture justement.
Ouais.
Voilà. Et puis en parallèle, enfin ou en contrepoint de ça, l'apport de la couleur, c'était plutôt le côté art brut, plasticien, plus la folie, mais en fait qui pourrait être ma folie à moi, quoi, plutôt que celle des patients.
Et ça donne ce document unique, très original et très intéressant également pour pénétrer à l'intérieur de cette clinique psychiatrique. Ça s'appelle La Troisième Population. Ça vient de paraître chez Futuropolis, réalisé donc avec Aurélien Ducoudray. Merci Jeff Pourquier, merci Hugo Verlhomme.
Merci Mathieu
d'être venu cet après-midi dans le club et bon week-end. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique. Affaires sensibles avec Fabrice Ouel, c'est dans un instant, avec la fiction du vendredi. Et lundi, on se retrouve pour une émission autour du Concorde, le supersonique qui nous a tous fait rêver.